On va lire un passage dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, au chapitre 3. Et au verset 14. Bon, on va déjà lire à partir du verset 13. 2 Corinthiens 3, verset 13. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui est passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure, il n'est pas enlevé, parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est un passage qui est très important, mais qui, à certains égards, une sorte de mystère. C'est quoi ce voile? Est-ce que ce voile est encore là aujourd'hui? Et en quoi consiste-t-il? C'est un voile spirituel, c'est vrai, mais aussi d'un autre ordre. Et j'aurais développé un petit peu, sans rentrer trop dans le détail, quel est ce voile. J'ai lu cet été un livre sur... le ciel des reins, faire tomber le ciel des reins. Et l'auteur qui l'écrit, il parle de ce ciel qui est sur l'Occident, qui est venu depuis Descartes essentiellement, mais ça remonte un peu plus loin, où, vous savez, Descartes a déclaré que nous existons parce que nous pensons. Donc notre pensée fait que nous existons. Et donc ça, c'est le but, le sens de notre vie, c'est de penser, et c'est au travers de la pensée que nous existons. Voilà toute un petit peu la pensée de l'Occident qui s'est construite sur ce cogito, j'existe, je pense, donc je suis. Au lieu de nous appuyer sur Dieu, qui lui est l'être suprême, il a dit « je suis celui qui suis » à Moïse quand il s'est révélé à lui. Et cette pensée qui se centre sur nous, eh bien, constitue un voile qui nous sépare de Dieu parce qu'il n'est plus capable d'accepter l'idée que Dieu existe. Et c'est le drame de l'Occident. Ce qui est important, c'est de savoir comment sortir de ce ciel qui est voilé, de ce ciel d'airain, qui est un ciel de fer qui ne répond plus parce que nous ne nous adressons plus à Dieu. C'est pour ça que c'est important, les petits groupes que nous avons ensemble, de nous habituer à prier les uns pour les autres. Auparavant, je voudrais introduire ce message par quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est la fête de 3 anniversaires. Ces jours-ci, on fête 3 anniversaires. Le premier, c'est le mien, parce que j'ai 70 ans maintenant et c'est la naissance naturelle, ma naissance naturelle, il y a 70 ans, en septembre, le 5 septembre. Mais en même temps, ce qui m'aide à penser à cette naissance naturelle, c'est aussi la naissance naturelle d'Israël. Israël, en 1948, a connu, alors c'est en mai 48, l'ONU, donc légalement au niveau mondial, a obtenu à une voix près, je crois, encore que la France se soit abstenue, a obtenu la légalisation de l'État d'Israël comme un État qui est sorti des cendres, puisque en 070, l'an 70, Israël était rasé de la carte par les Romains, qui ont voulu que plus jamais cet État ne relève la tête. Et ils ont mis du sel, vous savez, quand on met du sel, ils ont mis du sel partout pour détruire toute végétation. Non seulement ils ont détruit pierre sur pierre, le temple a été rasé, comme Jésus l'a dit d'ailleurs, qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Mais en plus, ils ont mis du sel partout pour être sûr que plus aucune végétation ne pousse et que Israël soit rayé de la carte définitivement. Et à partir de là, il y a eu la diaspora. Donc les Juifs ont été dispersés dans le monde entier. Et 2000 ans après, ce qui n'est jamais arrivé nulle part sur cette terre, un nouvel État est né. Ça, c'est quelque chose qui, aux yeux des plus grands, disons, non-croyants, je dirais, en particulier Churchill, disait « Regardez Israël et vous voyez que Dieu existe », qui a frappé l'opinion. Nous, on est très loin un petit peu de cela, parce que, voilà, nous avons d'autres préoccupations, mais il y a un week-end, on avait fait un week-end sur Israël, on avait montré les images de la manière dont Dieu a maintenu cet état d'Israël. Donc ça, c'est le deuxième anniversaire, c'est l'anniversaire, il y a 51 ans, de ma nouvelle naissance. Donc, il y a 70 ans, ma naissance naturelle. Et il y a 51 ans, j'ai eu une naissance surnaturelle, une nouvelle naissance, qui correspond à une intervention miraculeuse de Dieu pour que Israël soit pas rayé de la carte. À l'époque, en 67, les Arabes s'étaient ligués ensemble, d'un côté au nord, la Syrie, et au sud de l'Égypte, pour dire qu'on va jeter les Juifs à la mer. Ils ont fait des grandes affiches qui étaient placardées partout, où vous voyez, les Juifs étaient jetés à la mer, que l'État d'Israël serait rayé la carte. L'ennemi d'Israël, qu'il soit spirituel ou naturel, avait décidé que Israël, après avoir été accepté par les nations, eh bien, serait détruit, rayé de la carte. Et là, il y a eu une guerre qui s'appelle la guerre des six jours. Et si vous n'avez pas vu ce film, il faut le voir. C'est d'ailleurs un film qui est fait à partir d'images réelles qui ont été filmées à ce moment-là. Et dans cette guerre, en six jours, les Juifs ont gagné la guerre. Mais ils l'ont gagné non pas par leur force, non pas par leur pouvoir, mais par le pouvoir de Dieu. Et on voit dans cette guerre, eh bien, qu'il y a des scènes qui se sont passées comme dans l'Ancien Testament, où les Arabes, d'un seul coup, ils ont quitté, on ne sait pas pourquoi, ils ont quitté leurs chars et ils ont dévalé, même leurs savates, ils les ont perdus dans le désert et ils ont quitté. Et il y a un passage parce que pendant qu'ils étaient en train d'être sur le front de l'Égypte, il pouvait pas être sur le front syrien. Et le front syrien, il avançait, les chars avançaient. Et le général qui était là, qui avait très peu d'hommes, il avait peut-être quelques chars, quoi, contre des centaines de chars qui étaient en face. D'un seul coup, il voit les chars avec les jumelles qui repartaient dans le sens. Il comprenait pas. Et en fait, quand ils ont posé la question après, puisqu'ils ont gagné la guerre, ils ont proposé aux généraux, ils ont dit, ben, on a vu un grand ange qui était là et qui vous protégeait. Oui, si c'est pas une intervention naturelle, je sais pas comment ils appellent. Donc, vous voyez, c'était pas ni les chars ni les chevaux, mais c'était la puissance de Dieu qui avait décidé que la nation d'Israël ne serait pas rayée de la carte. Quand Dieu a un projet, on ne peut pas s'opposer à ce projet. Et dans ce temps-là, en 1967, moi j'ai vécu cela au mois de mai, et au mois d'août, j'ai rencontré un ami qui avait préalablement rencontré le Seigneur et qui me parlait de cette guerre, justement, et de la façon dont ça s'est passé. En plus, en Paris Match, j'ai racheté d'ailleurs le Paris Match de l'époque. Et Paris Match, c'est un grand journal où il y avait beaucoup des photos très grandes. Et ils avaient, tout ce journal était consacré à la manière dont Israël avait gagné la guerre. Et il me parle de ça. Et il pointe, pour moi qui étais croyant et qui servait le Seigneur à ce moment-là, il pointe le fait que Dieu est encore là aujourd'hui dans l'histoire. Ce n'est pas un Dieu qui existait il y a 2000 ans ou qui règne dans l'univers, mais qui s'occupe des affaires des hommes et de l'histoire de l'homme, de l'humanité. Et là, ça m'a frappé. J'ai eu chaud au cœur de voir que ce que je cherchais un Dieu qui s'occupe des hommes et pas juste qui est le Dieu de l'univers, c'est très bien. Eh bien, j'étais frappé. Ça va vraiment frapper le cœur de voir que Dieu est là aujourd'hui et que ce que je cherchais était en train d'accomplir. Et là, il m'a simplement dit, bien, tu prends ta Bible, et j'ai pris la Bible, et là, j'ai eu ma conversion, ma nouvelle naissance de puissance au travers de la parole. Dieu a délivré son peuple malgré les choix des humains, malgré la décision des humains, malgré toute la puissance qu'ils ont mis pour détruire Israël, ils n'y sont pas parvenus. Mon troisième anniversaire, c'est il y a 20 ans exactement, pratiquement jour pour jour, où je me suis levé ici, dans cette salle, et on était depuis presque un an en butte à une rébellion dans l'Église. Et cette rébellion était très forte, elle se manifestait par des signes, des puissances incroyables de par l'ennemi, parce que l'ennemi avait décidé qu'ici il n'y aurait pas d'église. Un pasteur qui était de l'autre côté de Paris a vu cette image qu'une femme était en train de fermer un rideau de fer sur cette église et qu'il n'y aurait pas d'église ici. Le problème, c'est que Dieu avait décidé qu'il y en aurait une. Alors, qu'est-ce qui va gagner? C'était un combat spirituel titanesque. Titanesque parce qu'ici, il n'y a pas simplement une volonté de résistance, mais il y avait une puissance tutélaire qui était là et qui pensait bien qu'il n'y aurait jamais d'église qui s'installerait ici. Donc, nous étions au cœur d'une confrontation de puissance inimaginable. Et donc, avec Michel, au mois de juin, on a dit, on remet notre ministère. On ne peut pas continuer comme ça à servir le Seigneur dans ce genre de conflit. Donc, on n'est plus pasteur de cette église. On se place devant Dieu. Et on s'est repenti personnellement pendant 2 mois, parfois jusqu'à 4-5 heures du matin. On s'est repenti devant Dieu de tout ce que nous avions pas bien fait devant Dieu. Et au mois d'août, on a demandé au Seigneur sa volonté. Est-ce qu'on doit revenir ou pas? Et le Seigneur a dit, vous revenez, mais dans les mêmes conditions de repentance pour l'Église. Et là, ce jour-là, donc il y a 20 ans, je me suis levé et j'ai dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ceux qui veulent le servir avec nous ici, eh bien, ils sont les bienvenus, sinon la porte est grande ouverte. Et donc, Michel est venu, les enfants sont venus, et ensuite, après, les chrétiens ont pris leur décision. Certains sont partis, bon, ça a pris un an pour certains de partir, d'autres on les a mis dehors. Et puis, on a recommencé. Donc, il y a une refondation, il y a 20 ans, de cette église. Et ça, c'est parce que Dieu a décidé qu'ici, il y aurait une église. C'est parce que c'est son projet. Nous sommes rentrés dans un projet que Dieu a prévu. Malgré cette situation qu'on a compris en 2001, donc quelques années après, que en fait, c'était un endroit où des sorcières de la préhistoire déjà avaient utilisé ce lieu pour faire des sacrifices humains, des sacrifices pour que cet endroit, voilà, qui était en bas, eh bien, soit consacré à Satan et soit consacré à l'ennemi de ce monde. Et donc, il y avait une puissance qui était là, qui avait un droit, une autorité. Il fallait reprendre ce droit. Et ça, tout ça, on l'ignorait. Donc, on était dans un conflit spirituel, comme Israël l'a été en 1967. Et pour faire l'histoire courte, eh bien, nous avons gagné, non sans laisser quelques plumes au passage, mais ce sont des plumes du côté physique et psychique, mais du côté spirituel, on a compris que quand Dieu veut quelque chose, il met tout en œuvre pour le réaliser, à condition que nous restions fidèles. Et là, il faut être présent. Il faut rester sur le bateau. Vous voyez, comme les disciples étaient sur le bateau qui ont traversé la tempête. Et en pleine tempête, hein, quand vous êtes dans une tempête, là, John Wesley était dans une tempête comme ça, et lui-même perdait sa foi alors que les Moraves, eh bien, tenaient bon. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut résister. Il faut résister jusqu'au sang. Jusqu'au sang. Et ça, on a connu ça. Et ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes dans une église où Dieu a décidé qu'il y aura un témoignage chrétien ici. Voyez, c'est pas juste un hasard que ce lieu ait été choisi. Non. Dieu veut qu'ici, il y ait un rayonnement spirituel. Donc non seulement nous avons un challenge, un défi que nous devons relever, et nous devons le relever avec les moyens du Seigneur. Et c'est là que ce passage va nous aider à comprendre ce voile. En 2018, aujourd'hui, donc 20 ans après cette refondation où nous avons tenu bon pour qu'il y ait une église qui reste ici, eh bien nous avons un devoir d'aller plus loin et d'accomplir l'appel que nous avons. Et l'appel que nous avons reçu pour cette église, c'est que des individus et des familles puissent rentrer dans leur destinée, puissent rentrer dans l'excellence, dans la dignité, puissent être un témoignage pour la gloire de Dieu. Et c'est comme ça que le voile sera ôté. Je m'expliquerai tout à l'heure sur le sens de l'interprétation de ce texte. Notre but, c'est la gloire de Dieu. Le but de l'homme doit être à la gloire de Dieu, pas la gloire de l'homme. Descartes, lui, il travaillait pour la gloire de l'homme. Je pense, donc je suis. Oui. Donc on cherche la gloire de l'homme. Mais quand on cherche la gloire de Dieu, eh bien tout est centré sur lui. Toute notre vie, tous nos projets doivent être centrés sur ce que lui a décidé, sur son projet. C'est pour ça qu'il faut déjà discerner son projet. Et je vous dis qu'ici, le projet, c'est qu'il y ait une église qui, malgré la post-modernité, hein, qui maintenant rentre dans le nouvel âge, où c'est une sorte de grande brasserie spirituelle, hein, où tout se mélange, non, qu'il y ait une fidélité à la parole, qu'il y ait une authenticité, qu'il y ait une cohérence dans la vérité de la parole. Et si nous restons dans cet objectif, eh bien, nous allons voir des choses qui vont se passer, parce que c'est pas nous qui l'avons décidé, c'est Dieu qui l'a décidé pour nous. Amen. Et nous pourrons rappeler à Dieu. Moi, je rappelle régulièrement Dieu, mais c'est toi qui m'as appelé ici. C'est toi qui as appelé cette église ici. Donc, tu vas la faire entrer dans sa destinée. Amen. Et là, nous avons simplement besoin de faire confiance à Dieu, de lui faire confiance, d'exercer la foi. Amen. Pour rentrer dans ses plans, rentrer dans ses projets comme des serviteurs. Alors je vais lire la suite qui va éclairer ce texte, c'est dans chapitre 4, du verset 1er jusqu'au verset 12. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous refusons les cachotteries honteuses. Nous ne nous conduisons pas avec fourberie et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Mais en manifestant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience humaine devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous, nous disons vos serviteurs, à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non pas abandonnés, abattus, mais non pas perdu. Nous portons toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous. Amen. Ça chauffait. Je crois que Ruben, dimanche dernier, vous a parlé de paradoxe, c'est ça ? Je ne sais pas. Parce que Michel m'a dit, Florence m'a dit, non. En tout cas, là, on a un paradoxe. On a un paradoxe. C'est le paradoxe qui dit, je viens de le terminer, « Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. » Et au verset 10, « Nous portons toujours dans notre corps la mort, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » Donc dans le même, comment dirais-je, « vessel » en anglais, ça se dit, dans notre vase, oui, merci, dans notre même vase, qui est notre corps, se trouvent en même temps deux choses qui sont opposées, la vie et la mort. Ça s'appelle un paradoxe. Un paradoxe, c'est deux choses qui sont opposées, qui existent en même temps. Oui. Et c'est pourquoi l'évangile, la parole de Dieu, ne peut être comprise qu'en esprit, parce que dans la logique humaine, les paradoxes ne sont pas acceptables. À tel point que quand Einstein et Heisenberg ont découvert des choses qui existent depuis l'éternité, que Dieu a créées, qui est l'atome, qui est la lumière, ils n'ont pas réussi à l'expliquer avec la logique que nous et que vous encore on utilise. C'est logique formelle. Une chose existe, et si elle existe, l'autre n'existe pas, c'est pas la même chose. Or, dans cette découverte, les deux sont vrais. La lumière est énergie et la lumière est corporelle. C'est quelque chose qui nous dépasse et que pourtant les scientifiques ont découvert et ont accepté. Et nous, chrétiens, souvent, on raisonne quand on lit la parole de Dieu, on raisonne avec cette logique formelle. Une chose existe, une chose. Comment la vie peut exister en nous et la mort doit exister en nous. Mais quand on le vit et quand on l'accepte, ça devient une puissance de Dieu. Ça devient une puissance créatrice. Les paradoxes, Dieu les a faits pour devenir une puissance créatrice et dynamique de Dieu. On va le voir comment. On revient en arrière sur Moïse. Moïse était celui que Dieu a choisi pour faire naître une nation, la nation d'Israël. Auparavant, c'était les patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, c'était des grandes familles, hein, jusqu'à 12 tribus. Et, bon, ils étaient assez nombreux en allant en Égypte. Mais pendant 450 ans où ils sont restés en Égypte, il y a eu l'esclavage et tout ça, mais il y a une période de faste au départ, et ensuite une période d'esclavage. Ben, ils sont devenus des milliers, des milliers, des milliers. C'était une grande nation. Mais ils n'avaient pas de constitution. Voilà, comme Israël en 67, ils erraient dans toutes les nations, la diaspora, mais ils n'avaient pas de nation. Ben là, c'est pareil, ils étaient esclaves en Égypte, ils n'avaient pas de constitution. Et Dieu a voulu les constituer en peuple. Donc il s'est adressé à Moïse, qu'il a appelé pour délivrer son peuple et l'emmener dans le désert pour lui donner une constitution au Sinaï. C'est au Sinaï que Dieu a donné la constitution avec les 10 commandements et ensuite après toute l'organisation de ce peuple. Quand Moïse a rencontré Dieu pour la première fois, c'était dans le buisson ardent. Ce buisson qui ne se consume jamais. Déjà un miracle qui s'est produit devant Moïse et Dieu lui a révélé son nom quand il a voulu connaître son nom. Il dit, je suis celui qui suis. Il est l'être suprême. Mais la Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes un être, mais pas suprême. Mais nous sommes un être quand même. Et il nous faut d'abord être avant de faire. Être avant d'avoir. Être avant de vouloir servir le Seigneur. Et c'est ça notre constitution, c'est d'être. Et pour cela, il faut adopter la compréhension que l'homme a un esprit, une âme et un corps. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne l'acceptent pas parce que la philosophie antique, Platon, Aristote, Socrate, etc., ont toujours dit que l'être humain, c'est un âme et un corps. L'âme étant souvent identifiée à l'esprit dans le sens où c'est l'intelligence de l'âme, âme et corps. Et cette dualité fait qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens encore qui pensent ça, eh bien, ils ne peuvent pas comprendre ce passage qu'on vient de lire. C'est impossible de le comprendre. Impossible d'impossible. Il faut croire et reconnaître que nous sommes un esprit, une âme et un corps. Alors, c'est facile à comprendre. L'esprit, c'est le souffle de Dieu. Par le souffle de Dieu, nous sommes animés de l'esprit. Notre âme, c'est tout ce qui se développe. Vous savez, un bébé, vous avez vu un bébé, il a un corps, mais il n'a pas d'âme. Enfin, il a une âme qui se développe en fonction de ce que vous dites, à l'école, l'environnement, etc. Son intelligence se développe, ses sentiments, son affect, etc. Enfin, sa relation au monde se développe, ça c'est l'âme. Dans son émotion, son intelligence, ses sens, etc. Voilà. Ça c'est l'âme. Mais il y a différentes façons d'être dans l'âme, que ceux qui voyagent, ils voient très bien qu'en Asie, on n'a pas la même âme, la même façon de vivre qu'en Occident, et ça crée aujourd'hui des difficultés dans la mondialisation. Où effectivement, on a tendance à exclure ceux qui ne sont pas comme nous, donc ça pose problème. Mais si on accepte cette tripartition de l'homme, qui d'ailleurs est l'image de Dieu, Père, Fils et Esprit, eh bien les choses commencent à devenir beaucoup plus claires. Pour revenir à Moïse, Moïse, quand il a fait cette rencontre avec Dieu, il a été en contact direct avec ce Dieu qui est invisible, mais qui s'est rendu visible dans le buisson ardent, sans toutefois pouvoir le voir, parce qu'on ne peut pas voir Dieu et vivre. Mais ce contact était tellement proche que son visage a rayonné de telle manière parce que quand il est descendu voir le peuple ne pouvait pas le regarder. Il devait mettre un voile sur son visage. Eh bien, c'est ce que Dieu veut pour nous. Ce voile, Dieu veut l'ôter de chacun de nous pour que nous puissions être comme Moïse, ou tout au moins nous approcher de cet état de refléter la gloire de Dieu. Et ça, c'est le sens de ce passage. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle que Dieu a décidé de sauver l'humanité. Les anges sont jaloux de cela. Parce que eux, il y a eu une scission dans le ciel où des anges sont partis avec Satan qui s'est rebellé contre Dieu et ils n'ont pas de salut possible. Ceux qui ont fait ce choix, ils sont perdus pour l'éternité. Et quand ils voient que Dieu s'est intéressé à l'homme pour le sauver, ils sont jaloux de cela. Et c'est la Bible qui nous le révèle. Donc nous avons un privilège, mes amis, que les anges n'ont pas. Est-ce que nous utilisons ce privilège? Non pas seulement pour être sauvés et pour ne pas entrer dans le jugement pour nous envoyer en enfer, mais pour vivre à la gloire de Dieu. C'est ça l'objectif. C'est que Dieu nous a sauvés pour que nous puissions refléter sa gloire. Amen. Et c'est ça l'enjeu de ce passage. Refléter la gloire de Dieu. De manière à ce que le voile qui aujourd'hui, dans la rationalité que j'évoquais tout à l'heure, le rationalisme de Descartes qui ensuite a fait des petits, parce que Descartes, il est né au XVIIe siècle, mais au XVIIIe siècle, tout ça, ça fait des petits dans les philosophes, et ça donnait lieu à la Révolution française. Et la Révolution française, qui était menée par des gens qui connaissaient ces philosophies, eh bien, ils ont élevé la raison au sens d'une déesse. Et quand il y a eu la fête de la Révolution, eh bien, il y a eu des prostituées qui ont été mises sur des trônes comme des déesses de la raison. Et ils ont saccagé toutes les églises en France, les églises catholiques, et ils ont mis ces déesses sur le trône, sur l'autel. Ils ont profané, ils ont fait des profanations des autels, etc., pour élever la raison au niveau d'une déesse. Aujourd'hui, c'est Minerve qui siège sur le palais Bourbon et qui est cette déesse qui incarne chez les Grecs et qui maintenant est revenue, parce que Michelet a dit qu'Athènes est venue à Paris, à cette époque-là, et qui règne sur la France et sur l'Occident. C'est la raison qui domine. Le problème de la raison, c'est qu'elle s'est cassée la figure, parce que quand il y a eu les deux guerres mondiales, personne n'imaginait que la raison puisse amener des hommes à s'entretuer de cette manière, à faire des millions et des millions de morts. C'est pour ça qu'on est dans la post-modernité, on appelle ça dans la post-moderne. Moderne, c'est la raison. Post-moderne, c'est le spirituel. Les gens cherchent du sens. Ils ne veulent plus la raison. Donc ils veulent du sens. Mais comme ils n'ont pas la parole de Dieu, et que les chrétiens ne montrent pas l'exemple de la parole de Dieu, eh bien ils cherchent du sens partout. Chez les bouddhistes, chez les taoïstes, dans le yoga, chez les incas, partout. Oui. Et donc, ça fait une religion éclectique. C'est-à-dire, on prend chacun, et chacun a sa religion. C'est ça qu'on vit dans ce monde aujourd'hui. Il faut se réveiller. Les institutions ont été saccagées en 68, la révolution des mœurs. Moi, j'étais dans une église catholique, le dimanche, j'étais 1000 personnes. Aujourd'hui, quand j'y vais, ils sont 10. Terminé. Et ça s'est vidé comme un entonnoir en quelques années. Les institutions n'ont plus d'autorité. Chacun est son autorité. Chacun décide pour soi. Chacun décide pour lui-même. Et si nous, nous faisons pareil, parce que nous sommes influencés par cet esprit du monde, eh bien, nous allons à la même catastrophe. Donc, il faut se ressaisir. Je reviens au voile. Ce voile, qui est ce voile du rationalisme, qui est un paradigme qui nous empêche de faire confiance à Dieu seul et de glorifier Dieu, eh bien, nous empêche de connaître la parole et de connaître sa gloire. Et non seulement nous, non seulement les inconvertis, les païens, mais nous aussi. Alors comment faire pour faire éclater ce voile ? Bien, la parole de Dieu nous le dit ici. Nous portons ce trésor, il est dit au verset 7, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Voyez-vous, les philosophes, en particulier Platon, que Augustin a pris comme modèle, eh bien, ils pensaient qu'à l'âme et au corps. Le problème, c'est que le corps était mauvais, puisque c'est par lui que viennent les passions, que viennent les péchés, que viennent tous les problèmes, les désordres et tout ça. Et la femme en sus là-dessus, bon, bah, elle est sur le sommet des problèmes du corps. Donc, le corps est mauvais. Et c'est l'esprit, c'est l'âme qui est élevée. Du coup, on exalte l'âme. On exalte la personnalité, le chacun. Et à ce moment-là, eh bien, nous ne pouvons plus recevoir du Seigneur, puisque nous nous enorgueillissons. Alors que là, l'apôtre Paul, il met le corps comme étant aussi important que l'âme et que l'esprit. Et c'est pour ça qu'il a été arrêté dans son discours à Athènes, quand il parlait aux philosophes, aux épicuriens et aux stoïciens, et qu'il parlait de Jésus et de la résurrection, pensant que c'était une parèdre, c'est-à-dire un couple, Jésus et Anastasis, ils ont écouté jusqu'au moment où l'apôtre Paul dit « Mais Jésus est ressuscité dans un corps nouveau. » Là, ils ont dit « Arrête, arrête, ça suffit, tes âneries, ça va bien comme ça. » Et là, ça s'est arrêté son discours, très long à Athènes. Aujourd'hui, nous vivons dans la même période. Aujourd'hui, les gens, eh bien, soit on détruit le corps, soit on l'exalte. Et stoïcien, épicurien, c'est les deux façons de traiter le corps. Mais on ne pense pas que le corps, Dieu va l'utiliser pour sa gloire. Et nous, chrétiens, nous sommes dans la même galère. Alors aujourd'hui, on développe l'idée que le chrétien, il doit accepter son corps, etc. Bon, je ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est un peu, voilà, des trucs à la rêverie. Mais la réalité de ce discours, je vais vous expliquer comment, en demandant à René de venir, j'aime bien les sketchs, pour que vous compreniez bien le sens de ce passage. Il est dit au verset 10, alors verset 8, je continue verset 8, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non pas dans le désespoir, persécutés, non pas abandonnés, abattus, non perdus. » Ça veut dire qu'on est dans un combat. Ça ne se passe pas tout seul. Ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Ce que je vais vous expliquer, ça ne va pas vous mettre dans un nirvana spirituel, chrétien. Voilà, c'est pas ça. On restera dans un combat. Le paradoxe est toujours en combat. Mais il va nous amener à la gloire, à glorifier le Seigneur. Verset 10. « Portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. » René, il a un esprit, il a une âme, réflexion, etc., et un corps. La Bible, quand elle utilise le mot grec, ceux qui lisent le grec, c'est le mot sarx qui est utilisé, S-A-R-X, qui est très souvent traduit par corps. Mais en fait, sarx, c'est la chair. Alors des fois c'est chair, des fois c'est corps. Là, celui qui a traduit la Bible, donc comment il s'appelle, Second, il utilisait corps. Mais dans certaines traductions, c'est parce que voilà, des fois les traducteurs ils veulent traduire la réalité. La réalité c'est ça, c'est âme et corps. Âme et corps sont unis ensemble parce que l'âme dépend du corps. Et le corps, la façon dont le corps conduit l'âme à avoir une certaine forme, une certaine manière d'être. Donc René a une âme, en plus elle est formée aux Pays-Bas, mais elle est modifiée, par la France. Non, mais on a des Huguenots là-bas aux Pays-Bas qui ont aussi influencé. Voilà. Donc il a une âme, il a un corps. Et Dieu veut, et il a un esprit qui a été renouvelé, parce qu'il a accepté Jésus dans sa vie. Donc il a reçu un esprit, il a reçu le souffle de Dieu qui était absent. L'esprit est mort naturellement quand on ne reçoit pas le Seigneur. Et il a reçu cet esprit, donc il a un esprit. Et la Bible dit, nous portons toujours avec nous la mort de Jésus. Donc il faut que lui, il continue à porter tout le temps la mort de Jésus. Mais où est-ce que tu vas porter la mort de Jésus? À quel endroit vas-tu porter la mort de Jésus? Pour que la vie de Jésus soit manifestée dans notre corps. C'est ça l'enjeu de l'explication de Paul. C'est pour ça que le corps est important. S'il n'avait pas de corps, ou si comme les Grecs disaient le corps ne sert à rien, effectivement on ne peut pas être chrétien dans ces conditions-là. Pour être chrétien, il faut que le corps manifeste la mort de Jésus, pour que ce même corps manifeste la vie de Jésus. Paradoxe. Et c'est ça, Paul. Hein ? C'est pour ça que les paradoxes sont importants, parce qu'ils ne sont pas faciles à comprendre du premier coup. Parce que les deux sont vrais. Or, ce qui se passe, c'est que son esprit va permettre d'enlever le voile. Parce qu'il y avait un voile sur lui avant qu'il soit converti. Tu ne comprenais pas les Écritures, tu ne comprenais pas l'Évangile. Maintenant, tu comprends l'Évangile. Mais tu le comprends par l'esprit, non pas par l'âme, encore moins le corps. Okay ? Donc, non pas par l'intelligence, puisque les paradoxes ne sont pas accessibles à l'intelligence, puisque le oui et le non sont vrais en même temps. Donc, c'est ton esprit. Tu comprends la parole par ton esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu en toi. Alors, je ne dis pas qu'il est dans la tête, hein, l'esprit. Hein. Voilà, on essaie tout de suite de hiérarchiser les choses. Non, l'esprit, on ne sait pas où il est, mais il est en lui. Voilà. Donc, l'esprit qui est en toi te permet de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce qui est écrit de manière spirituelle, non pas de manière visible, mais de manière invisible, par la foi. Et quand ton esprit comprend ça, le voile est ôté. Du coup, tu comprends ce que dit l'apôtre Paul en disant que ton corps... Dans ton corps, il doit y avoir la mort et la vie en même temps. Et là, on renvoie à un autre passage qui est aussi un paradoxe. C'était dans Matthieu 16, verset 24, où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il a dit à ses disciples, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et ensuite, Abbé, il explique ce que c'est que la croix. La croix, c'est pas un instrument très lourd qu'il faut porter avec sur une montagne pour faire indulgence. La croix, c'est un instrument de paradoxe. C'est la vie et la mort en même temps. Jésus est mort. Mais il est mort dans quoi? Dans son corps. L'hérésie qui s'appelle le docétisme, hein, qui est d'ailleurs utilisé par l'islam aussi, dit que, parce qu'ils croient en Jésus, hein, mon prophète, ils disent que Jésus à la croix, c'était un esprit. C'est-à-dire qu'il est mort en esprit, mais il n'est pas mort dans son corps. Vous voyez, donc il y a bien une idée qu'on veut effacer le corps. Or la Bible dit que c'est son corps qui a été cloué à la croix. Et c'est son corps qui est ressuscité. Amen. Donc vous voyez que, historiquement, Jésus avait un corps qui est mort, et un corps qui est ressuscité, sauf que le nouveau, eh bien, nous ne l'avons pas encore, mais nous l'aurons, comme celui de Jésus. Mais c'est dans le corps que se manifeste la puissance et la gloire de Dieu. Et ça prend en contre-revers toutes les philosophies dans le monde entier, parce qu'il n'y a pas que le Platon, il y a aussi le bouddhisme et tout ça qui prônent la même chose. Le corps est une horreur, et ça peut se comprendre naturellement à la vue, effectivement, c'est par le corps que viennent les problèmes. Parce que les idées, des très belles idées, hein. Platon a des très belles idées, donc voilà, on glorifie la raison, on glorifie l'idée. Donc René, il doit manifester dans son corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans son corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Ah, alors que ça commence à s'éclairer. C'est-à-dire que dans son corps, il va souffrir à cause de Jésus. Voilà. Vous voyez, le corps, quand on est chrétien, il nous suit partout, hein, parce que nous suivons le corps, lui nous suit, on est voilà dans le corps. Mais à cause de Jésus, il va supporter les moqueries, il va supporter l'indifférence, il va supporter un certain nombre de choses qui ne sont pas acceptables pour les gens, c'est dans son corps qu'il va le vivre, dans son âme, dans sa chair. Voilà. Et si ça, il ne l'accepte pas, il va faire des compromis chrétiens pour que cette mort s'arrête. Et c'est là que la puissance de Dieu va s'arrêter. C'est là que le paradoxe ne va plus marcher. C'est là qu'il n'y a plus de puissance. Voyez ? Parce qu'on va se conformer au monde. Donc dans son corps, il faut qu'il accepte l'idée qu'il va souffrir. Non pas pour le racheter, parce que il a reçu le salut par la foi, la justification par l'adhésion à la doctrine de Jésus, mais il va souffrir parce qu'il est chrétien. Et ce qui explique que dans les périodes de persécution des martyrs, c'est là que le christianisme il augmente le plus. Parce que les gens n'ont pas peur d'aller jusqu'à la mort, jusqu'à souffrir la mort dans leur corps. Parce que quand son esprit lui fait comprendre la puissance de l'évangile, la puissance de la gloire de Dieu, qui lui, que Jésus aussi a souffert dans son corps, que Jésus, lui, qui était le Fils de Dieu, a été rejeté, qui a été jugé et mis sur la croix comme un brigand, mais que le disciple, eh bien, il souffrira beaucoup moins que tout ce que Jésus a souffert. Et donc, s'il accepte ça, eh bien, c'est la vie de Jésus qui va se manifester dans son corps en faisant rayonner la gloire de Christ sur lui. Et c'est ça la conséquence, c'est qu'il va rayonner la gloire de Christ. Amen. Et le rayonnement vient du vécu du paradoxe. S'il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas de rayonnement. Pas possible. Nous, on veut éviter les paradoxes. On ne veut pas vivre la mort. On veut bien la vie, hein. Pas la mort. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un principe que Dieu a mis dans sa création et qui s'applique ici par ce verset. Quand moi je me suis converti, là, je vous parlais de 1967, il y a 51 ans, eh bien, quand je lisais la Bible, il est devenu comme du feu. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je lisais, c'était du feu qui sortait. Et ça pendant des mois et des mois. Et à côté de ça, quand c'était ma première année de l'école d'ingénieur où j'étais, il y avait un pagaille pas possible, hein, parce que vous savez, quand on rentre dans une école, on a fini les prep. Alors là, c'est la décompression totale. Et puis, il se passait des choses autour de moi. Je ne voyais rien, je ne sentais rien. Je ne voyais que la Bible. J'étais en plein milieu d'un grand dortoir. Et puis, les gens ils me crachaient dessus, faisaient des choses, etc. Voilà, parce que je montrais que j'étais chrétien. Et je souffrais dans mon corps. Mais je souffrais pas. Je souffrais, oui, mais sans souffrir, parce que ça, c'était plus important pour moi. Voyez. Et là, la gloire de Dieu s'est manifestée. Quand un chrétien est venu de Paris, parce que je connaissais pas les chrétiens, j'étais catholique, je savais pas que ça existait, les évangéliques, il m'a dit, mais tu vois, on va parler de l'évangile. J'ai dit, bien sûr, c'est fantastique, l'évangile, on va parler. Il m'a dit, mais tu as convoqué toute ton école. Alors j'ai convoqué, alors tout le monde est venu. Les 600 élèves étaient là. Tout le directeur, ils n'ont jamais vu ça. Il n'y avait plus de place. Il y avait les balcons qui étaient au-dessus. Ils ouvraient les machins. Et ils ont annoncé l'évangile. Moi, je trouvais ça évident. Vous voyez, je trouvais ça évident. Parce que la gloire de Dieu s'est manifestée. Donc, période d'opposition, n'ayez pas peur de l'opposition. Parce que dans l'opposition, vous pouvez glorifier le Seigneur. Je ne dis pas de chercher l'opposition. Ce n'est pas la théologie de la recherche de l'opposition. Mais si vous avez de l'opposition, regardez Étienne. Étienne, quand ils l'ont lapidé jusqu'à la mort, il voyait le ciel ouvert. Et Jésus se tenait à la droite de Dieu. Et son visage rayonnait. Il y a une différence avec Moïse, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un petit gars qui tenait les habits, là. Il voulait pas. À l'époque, il était trop jeune. Pour jeter les pierres, c'était Paul. Et Paul a vu ça. Et ça l'a touché. Et il s'est devenu le grand Paul que nous connaissons. Vous voyez, la mort, quand elle se manifeste en nous, il y a aussi la vie qui se manifeste. Et plus la mort se manifeste, plus la vie se manifeste. Amen. Donc, René qui est chrétien, qui a le Saint-Esprit, qui est renouvelé, où le voile est ôté, mais ceux qui sont en face, il n'est pas ôté. Il ne le voit pas. Il faut que son visage, c'est souvent le visage qui exprime, mais son être entier rayonne la gloire de Dieu pour que les gens en face soient confondus dans leur intelligence, dans leur réflexion, dans leur pensée, dans le cogito là, et compagnie, qui les amène à être voilés pour que le voile s'enlève. Après, ils sont responsables du choix qu'ils font. Chacun est responsable du choix d'accepter ou de refuser, mais il voit la gloire. Et il faut que ça, on le revive dans notre civilisation aujourd'hui. Je te remercie, René. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'annoncer l'évangile. L'apôtre Paul dira à un autre endroit, l'évangile est une puissance. Mais la puissance, ce n'est pas voilà, une puissance rhétorique. Une puissance du discours, une puissance extérieure. La puissance de Dieu, c'est des chrétiens qui acceptent que dans leur corps, dans leur être humain, ils vivent la mort de Jésus. Ils acceptent la croix, ils acceptent ce paradoxe de laisser bien leur être mourir pour recevoir la vie de Jésus et ainsi manifester eh bien, la gloire de Dieu. Et tout ça pour la gloire de Dieu. Amen. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit manifestée dans notre chair, âme et corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Si la mort agit chez René ou chez moi ou chez Ruben, etc., parce que nous acceptons que le Seigneur se manifeste en esprit au travers de moi et que je parle avec la grâce de Dieu, avec toutes les vertus de l'évangile, eh bien la personne en face va être touchée parce qu'elle ne comprendra pas, parce qu'elle sera pris en porte-à-faux, elle sera pris en défaut. Et ce n'est pas ma rhétorique, ce n'est pas ma parole qui va la convaincre, c'est la gloire de Dieu qui va se manifester. Et la parole de Dieu nous dit que cette parole nous transforme de gloire en gloire. Amen. Elle nous transforme de gloire en gloire. C'est-à-dire, c'est une transformation qui se fait, plus nous comprenons et vivons ce paradoxe, plus nous pouvons glorifier le Seigneur. Notre but, c'est de glorifier Dieu. Mais naturellement, nous voulons nous glorifier nous-mêmes. Et c'est ça, ce qu'on appelle le chrétien charnel, le chrétien spirituel, c'est simplement qu'il accepte la mort s'exercer dans sa vie pour que la vie de Jésus puisse s'exercer en lui et que c'est une vie qu'il ne peut pas produire, que c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, qui seul peut la produire en lui au travers du vécu de ces deux éléments, vie et mort, en même temps. Et ça, on ne peut pas le produire, il faut le vivre. Il faut le croire et il faut l'accepter. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, celui qui veut me suivre, doit vivre ce paradoxe. Il doit trouver et perdre. Perdre et trouver. Amen. Voilà. Ceux qui veulent plus savoir, lisent le livre de Christian Schwartz qui explique encore mieux que ça. Mais c'est ça, je pense, qui nous attend dans ces années qui viennent ici à Élisabethville, où les gens sont endormis par un voile qui est sur eux et qui ne peuvent pas comprendre. Et nous ne pourrons pas leur démontrer quoi que ce soit. Dieu ne se démontre pas. Dieu ne s'explique pas. Dieu se vit. C'est une communion, une relation intime. Et pour cela, nous devons manifester la gloire de Dieu en acceptant que la mort de Jésus puisse se manifester en nous pour que la gloire de Jésus en même temps se manifeste. Amen. Et nous te prions pour cette génération. Et nous te prions pour ceux qui nous entourent, au milieu desquels tu nous as placés. Tu as placé une église qui doit rayonner de ta gloire. Seigneur, tu l'as sauvée des affres du désert et de la servitude. Et tu l'as placée ici, Seigneur, pour que nous soyons des témoins. Que chacun de nous qui sommes ici, nous puissions réaliser, Seigneur, que ce n'est pas par nos propres forces, nos propres efforts, que nous pourrons manifester une puissance quelconque, mais c'est par ta puissance en nous au travers de ce paradoxe mort et vie qui va parler et qui va nous faire rayonner de cette gloire qui va être perceptible pour ceux qui nous regardent et qui vont venir à toi parce qu'ils te cherchent et nous pouvons les conduire à toi. Seigneur, merci de ce que tu vas faire, une percée spirituelle en nous utilisant. En nous utilisant notre humilité, la prière et tout ce que nous allons vivre dans ces prochaines années. Nous te remercions pour cela, parce que c'est toi qui vas le faire, en nous aidant à obéir à ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.